Europe 1, votre matinale info, Thierry Dagiral.
Toute l'information, bonjour Florence Cohen.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Bon réveil à vous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h.
Ça y est, 18h02, j'ai envie de dire, on a même laissé 2 minutes de rab, donc on contrôle tout le monde. Messieurs, dames, s'il vous plaît.
Des contrôles sur le canal Saint-Martin à Paris pour éviter les rassemblements en temps de Covid. Idem dans les Alpes-Maritimes et à Toulouse, les berges de la Garonne fermées par précaution.
Les grands de la vente en ligne ne sont pas uniquement américains. En France, nous avons bien sûr la Redoute. Nous serons dans ce journal avec son co-président alors que les soldes s'achèvent.
Marseille-Lyon ce soir en Ligue 1 de football. L'OM vient de faire le grand ménage dans sa direction. L'OL brigue le titre.
Et puis la série The Crown nommée 6 fois aux Golden Globes. La famille royale d'Angleterre fascine visiblement toujours.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les autorités serrent la vis pour faire respecter les mesures anti-Covid. Des contrôles sur le littoral des Alpes-Maritimes, confinés comme Dunkerque, vous le savez, pour le week-end. Et les berges de la Garonne fermées aujourd'hui et le week-end prochain à Toulouse pour éviter les rassemblements sous le soleil. Du monde, il y en avait aussi hier aux abords du canal Saint-Martin à Paris. Il faisait beau, les Parisiens ont eu envie de prendre l'air. Diane Berger s'est embarquée avec les policiers en charge de faire respecter les règles.
Sur les bords du canal Saint-Martin, soleil, bière et flânerie du samedi. Par milliers, les Parisiens auraient voulu suspendre le temps hier, passé 18h, peine perdue devant les rondes policières.
Je confirme, 18h02 exactement.
C'est bien pris. Ça y est, 18h02, j'ai envie de dire, on a même laissé 2 minutes de rab, donc on contrôle tout le monde. Messieurs, dames, s'il vous plaît.
2 minutes de trop, le couperet tombe pour ce groupe de 6 jeunes copains qui s'apprêtaient à rentrer.
Moi j'ai pas d'hésitation, je vais pas vous mentir. Notre peur arrive dans 3 minutes, vraiment.
Vous saviez que pour vous faire, c'était 18h, il fallait vous organiser en amont pour être à 18h chez vous. Vous l'avez pas fait, c'est une verbalisation.
135€ par personne, tolérance zéro. Le mot d'ordre lancé par le Premier ministre hier est immédiatement appliqué par la commissaire de police de l'arrondissement, Victoria Braun.
Il y a un message vraiment de fermeté très clair de la part des effectifs présents et en particulier à partir de 18h pour ce qui est du couvre-feu. Il me semble que de la pédagogie a été faite depuis maintenant plusieurs semaines.
En 15 minutes, son unité a distribué une dizaine d'amendes à ceux qui profitaient du beau temps mais qui n'ont pas vu leur tournée.
Et nous voilà prévenus, les mesures pourraient se durcir. Le Premier ministre Jean Castex demande au préfet de renforcer les contrôles dans les 20 départements sous surveillance. Dans le journal du dimanche, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, estime oui que le couvre-feu fonctionne très bien, mais que des mesures plus strictes pourraient être prises si nécessaire.
Les États-Unis de leur côté autorisent la mise sur le marché d'un troisième vaccin, celui de Johnson & Johnson. Il va venir compléter donc le Pfizer et le Moderna.
En France, 2 frères de 17 et 27 ans en garde à vue après l'assassinat d'un adolescent de 15 ans avant-hier à Bondy en Seine-Saint-Denis. Les suspects se sont présentés d'eux-mêmes au commissariat. Gladys Laffitte, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce meurtre clairement ciblé ?
Oui, ciblé et même prémédité puisque les 2 auteurs présumés, 2 frères de 17 et 27 ans, sont en garde à vue pour assassinat. Il semble que ce meurtre soit l'épilogue d'un différend qui les opposait à ce jeune de 15 ans depuis près d'un an, sans que l'on ne connaisse pour le moment l'origine de ce désaccord. En tout cas, une dispute a éclaté quelques heures avant le drame entre ces 3 personnes. Les animateurs de la maison de quartier où ils se trouvaient ont même dû les séparer et demander au père de la victime de venir le chercher. Une fois arrivé, le père s'est lui-même disputé avec les 2 frères. Le père et son fils sont rentrés à l'intérieur de la maison de quartier et c'est à ce moment-là que les 2 suspects sont revenus en scooter. Le passager arrière a glissé le canon de son arme dans la fente de la boîte aux lettres et a tiré sur le jeune homme de 15 ans touché à la poitrine. Les enquêteurs continuent à interroger les 2 frères, notamment pour connaître l'origine du différend qui les opposait à la jeune victime.
Un journaliste du quotidien régional L'Union, grièvement blessé hier à Reims. Il couvrait des regroupements de jeunes dans un quartier, dans le quartier prioritaire de la Croix-Rouge. Il est hospitalisé et son pronostic vital est engagé. C'est un plan ambitieux qu'a dévoilé en début de semaine Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Proposer à 10 000 jeunes des quartiers sensibles des stages, emplois ou apprentissage dans tous les métiers qui composent le ministère de l'Intérieur.
Et l'objectif, c'est de mieux faire connaître la police et offrir des perspectives dans le contexte compliqué de la crise sanitaire. Illustration à Lyon avec notre correspondant Jean-Luc Boujon.
À 22 ans, William tient peut-être la chance de sa vie. Après l'échec de ses études de médecine, le voilà qui a intégré la classe préparatoire de l'école des officiers de police de Lyon. C'est un service civique au sein de la police qui lui a fait découvrir cet univers auquel rien ne le prédestinait, lui qui est issu d'une famille peu favorisée.
Famille monoparentale, 5 enfants, on n'a pas forcément eu le plus de chance. Les meilleures préparations ne sont pas accessibles pour tout le monde. Moi, par exemple, avec mes possibilités financières, j'avais aucunement la possibilité de suivre cette formation. Et puis, on m'a présenté la possibilité d'entrer au sein de l'ENSP grâce au programme d'égalité des chances. Et donc pour moi, ça m'a ouvert les portes de l'ENSP. C'est une belle chance qui m'est offerte.
Le parcours de William, c'est exactement ce que veut promouvoir le ministère de l'Intérieur. Il veut même se tourner davantage vers les ados issus des quartiers difficiles, explique Jean-Pierre Merle, commandant divisionnaire du commissariat de Lyon 8e.
Ça permet d'avoir un lien entre la population jeune du quartier et puis la police qui est parfois caricaturée ou mal connue sur cette frange de la population. Là, en étant au cœur du dispositif, ça permet d'enlever des préjugés qu'on pourrait avoir en amont.
Une manière aussi d'offrir des perspectives aux jeunes fragilisés par la crise sanitaire. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
En Nouvelle-Calédonie, un homme de 57 ans a été tué par un requin au large d'un îlot à Nouméa. Il a été mordu à la jambe par un animal d'environ 4 mètres. Il est décédé juste après.
Les soldes, elles s'achèvent après-demain.
Oui, et les commerçants le savent déjà, les résultats ne seront pas bons, sauf pour la vente en ligne. Alors bien sûr, quand on dit ça, on pense à Amazon. Mais il y a aussi quelques pépites françaises. La Redoute, par exemple, elle était mal en point il y a 10 ans. Aujourd'hui, les Français adorent son e-catalogue. Et malgré le Covid, l'entreprise a dépassé le 1 milliard d'euros de ventes l'an passé.
Bonjour Éric Courteil.
Bonjour.
Vous êtes coprésident de la Redoute avec Nathalie Bella. Comment expliquer une telle résurrection? Vous dites la crise sanitaire a validé le travail de transformation des 6 dernières années.
Ah oui, alors on a fait un travail de transformation assez important depuis qu'on a repris l'entreprise avec Nathalie Bella en 2014. Et donc on a transformé tous les métiers pour faire en sorte que la Redoute soit encore un acteur majeur du commerce aujourd'hui dans le monde et dans l'univers du digital. Oui.
Transformation des métiers, ça veut dire quoi? C'est notamment le Quai 30, c'est, il faut le dire, un immense entrepôt à Waterloo, dans le Nord, qui tourne 7 jours sur 7, qui gère 3500 commandes par heure, c'est ça?
Ça veut dire qu'on a revu tous les métiers, ça veut dire qu'on a revu l'offre également. On a aujourd'hui 3 marques sur lesquelles on opère, 2 marques en maison, AMPM et Redoute Intérieure, et une marque en prêt-à-porter avec la Redoute Collection. Ça veut dire, vous l'avez dit, qu'on a revu complètement la manière de faire les services. On a effectivement investi plus de 30 millions d'euros dans un site logistique ultra performant qui permet de faire partir la commande 2 heures après que vous l'ayez commandé sur le site internet. Ça veut dire aussi qu'on a arrêté le catalogue, comme vous le savez, le mythique catalogue de la Redoute, pour avoir une prise de parole qui soit digitale avec l'ensemble de nos clients. Et ça veut dire enfin qu'on a profondément changé la culture de l'entreprise et qu'aujourd'hui, on a une équipe d'employés, de collaborateurs qui sont totalement impliqués dans le projet.
Justement, ce sont 2000 salariés, dont 500 pour l'international, 30% de votre chiffre d'affaires qui est tourné d'ailleurs vers l'international. Comment s'annonce l'avenir de la Redoute malgré cette période de crise sanitaire?
Écoutez, l'avenir de la Redoute, on a plein de projets dans les cartons. On vient d'en sortir un à travers la reboucle, le cycle de seconde main, en fait, de mise à disposition à nos clients qui sont en mesure, en venant sur le site de la reboucle, de revendre leurs produits de seconde main. Vous l'avez dit, on a l'international qui est un levier important de développement. On a des tonnes de leviers également sur l'offre produit, notamment sur la maison, mais également sur le prêt-à-porter. La marketplace également, on est présent en France, mais on va aussi la développer à l'international. Donc on a une charge de travail et un plan bien fourni pour les 3 années qui viennent à la Redoute.
Éric Courteil, coprésident de la Redoute, merci à vous.
Merci.
Un rendez-vous à noter ce matin sur Europe 1. Sachez que l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, et sa femme, Carole, seront les invités de Frédéric Taddeï à partir de 9h. Ils publient ensemble un livre mercredi prochain, La fuite de Carlos Ghosn du Japon. Vous le savez, hein, c'était il y a 1 an exactement.
Allez, dans un instant du foot, Marseille-Lyon ce soir en Ligue 1. L'un veut sortir de la crise, l'autre brigue le titre. 7h09, à tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Thierry Dagiral.
Avec la suite de votre journal, Florence Cohen.
Et on l'appelle l'Olympico. Ce sera le match de clôture de la 27e journée de Ligue 1 de foot. Marseille reçoit Lyon ce soir à 21h. L'OM, en pleine crise, vient de se débarrasser de son président et de changer d'entraîneur. C'est désormais Jorge Sampaoli qui sera assis sur le banc. Lyon, de son côté, joue pour le titre. Alors forcément, les esprits ne sont pas très sereins du côté de la Canebière, Stéphane Frangy.
Il n'a pas renoncé malgré le tumulte et les désillusions. Pape Gueye, le jeune milieu de terrain de l'OM, vise plus haut au classement sans crainte apparente de l'Olympique lyonnais qui boxe pourtant dans une autre catégorie.
Si on peut priver de gagner le championnat, on va le faire, on ne va pas réfléchir. On a des séries à faire, je pense que si on gagne, ça peut être un déclic pour la fin de saison. On sort de 4 matchs sans défaite, on a retrouvé un groupe. On a pour objectif de continuer à aller grappiller en haut le podium.
Pas de pression apparente non plus pour le coach marseillais Nasser Largué face au troisième de ce championnat, l'OL, qui doit garder le rythme à 3 points du LOSC.
Non, franchement, j'aborde tous les matchs de la même manière. C'est vrai qu'il y a une particularité parce qu'on sait les enjeux de ces matchs-là pour eux, pour rester dans les premiers, puis nous, essayer de grappiller des points, de regagner la confiance et puis de jouer un rôle dans les 5 premières places.
Et l'OM qui pourra compter dans ce choc sur le retour de son attaquant Arkadiusz Milik. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et puis notez bien qu'à 8h15, je recevrai la ministre des Sports, Roxana Maraciné, à nous.
The Crown, c'est la série phénomène de Netflix. Elle est nommée 6 fois au Golden Globe, qui récompense les films et séries. La cérémonie se tient la nuit prochaine aux États-Unis. Alors The Crown, ça raconte la famille royale d'Angleterre, de son côté glamour à ses coulisses peu glorieuses. Mais pourquoi tant de succès et de fascination? Des éléments de réponse avec Diane Chenouda.
Le génie de The Crown, c'est de nous faire entrer dans l'intimité de la famille royale. Même si la fiction joue avec la réalité, on y est. On est à Buckingham, avec la reine, le prince Charles et la princesse Diana. Laurence Herzberg, la directrice de Sérimania.
Ce qui fascine les gens, c'est que toute cette famille qu'on a l'impression de connaître, on révèle leur face cachée et leur intimité. Mais on a tous envie de savoir comment vivent un roi et une reine. On a tous été bercés de contes de fées. C'est pas simplement aussi une histoire de contes de fées, c'est aussi une histoire très cruelle.
Oui, c'est cette plongée vertigineuse dans la psyché des Windsor qui tient en haleine le spectateur. Comme l'analyse aussi Constance Jamet, spécialiste des séries au Figaro.
Finalement, Peter Morgan est un peu comme Shakespeare dans Richard III. Il attribue des passions très humaines à des gens, des personnages publics, en montrant que ces gens qui ont le pouvoir sont soumis comme nous à des coups de foudre inappropriés, à la tentation de liaison extramaritale, à des moments de dépression. Et c'est ce mélange de faits, de fiction, de montrer la famille royale comme étant des gens très humains écrasés par la couronne qui, je pense, marche si bien.
Avec, dans la saison 4, toute la souffrance et le glamour de Diana.
Diane Chenouda, merci. Florence Cohen, à tout à l'heure pour le journal de 8h.